Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcasteur classique numéro 12. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, dont bien sûr le trailer de Birds of Prey. Je suis Cléian et vous êtes sur DC Planète. Avec moi aujourd'hui, j'ai une très bonne équipe, même s'il n'y a pas votre chou, on va peut-être dire que c'est pour le mieux. Déjà, j'ai Blue.
Et coucou!
Comment ça va?
Ah bah, ça va très très bien, je viens de découvrir le programme et comme je suis quelqu'un qui me prépare ses podcasts à l'avance, et on va bien s'amuser.
Et je tiens à dire quand même qu'on parlera pas de Batwoman.
Effectivement, on va c'est dans les bonus.
Non. Se le garder pour un futur podcast review qui sera très bien. Vous allez voir, Blue a plein de choses à vous dire.
Ah, ça.
Il est déjà arrivé sur le podcast pendant un quart d'heure, il a parlé de Batwoman, c'était magnifique. Il est chaud comme la braise. En deuxième invité, avec nous aussi, nous avons Just a Frog.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Moi, contrairement à Blue, j'ai deux pages de notes.
Ah. Oh, mais quand ça balance!
Non mais c'est bien, il y a deux catégories de personnes,
il y a deux écoles
complètes. Ouais.
On verra le temps de parole.
c'est ça le truc, c'est que ouais. Moi non plus, tu vois, j'ai découvert juste avant. Bon, salut, hein, je suis là aussi.
Oui,
c'est Sledgy. Oh mon dieu, c'est Sledgy.
C'est-à-dire que moi j'arrive, j'ai terminé de manger une partie de Mario Kart, de Crash Team Racing, pardon.
Et, ah bien, ouais. Bah c'est mieux. Hein.
Et paf, j'arrive et bon, bah voilà quoi. Ça a mal parlé.
Voilà, c'est le GL, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va, moi je suis très content d'être là. Vu le programme qu'on a, ça va être marrant.
Effectivement. Et donc, ouais, comme je l'ai dit, on va passer sur un nouveau format classique. On va supprimer les reviews et on va essayer, on va voir si ça fonctionne, mais ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison, de lancer un podcast review à côté. Et donc, on commence directement avec les news VF, et une news qui a pas mal fait rire les gens, ou rire jaune, on va dire. Urban a annoncé l'arrivée de Watchmen, mais le twist est là, dans son format original. C'était Just, il me semble qu'il voulait en parler, ou...
Je peux, en effet. Ouais, du coup, Watchmen a annoncé, donc numéro par numéro, qui vont sortir en kiosque, sur 12 numéros. Après, on n'a pas vraiment idée de ce qu'il y aura dans le format en plus. À mon avis, il n'y aura pas grand-chose.
Il n'y aura rien du tout.
Ouais.
est-ce que tu peux rappeler le prix des numéros?
Ah, j'en ai aucune idée. Ça doit être.
C'est 4,95, je crois.
Exactement. Ouais. C'est un peu enfin, cher. Hein.
C'est le prix d'une issue aux États-Unis.
Ouais, mais je ne pense pas qu'à l'époque, dans son format original, c'était ce prix-là.
Non, je ne pense pas non plus. Mais après, oui, pour un prix français, en tout cas, où tu peux retrouver aujourd'hui à 10 euros, peut-être, il y a quoi, une dizaine de titres. C'est ouais, sûr que le public français va peut-être pas être réceptif à ce genre de publication. Bah ouais.
C'est ça. Alors que c'est 35 euros en entier, en une seule fois, et que c'est mieux, parce que c'est comme ça que ça a été conçu, en vérité. Oui. Je veux dire, Watchmen, ça se lit pas autrement que... que d'un seul coup, quoi. Je veux dire, qui est le con qui préférait avoir des numéros un par un chaque mois, quoi. Je veux dire...
Doucement, on va perdre des auditeurs. C'est déjà qu'ils sont 10.
Non, mais c'est vrai. Et qui va surtout se dire, tiens, j'ai pas lu Watchmen, je vais acheter les numéros un par un.
Tiens, il me faudrait la 15e édition de Watchmen que j'ai pas encore chez moi.
Ouais, à mon avis, c'est plutôt destiné à ce genre de public, ceux qui ont déjà Watchmen et qui veulent ça ouais. Pour la collection ou je ne sais
pas. C'est un truc de puriste. C'est très, très, très puriste. Après, ouais. Encore une fois, c'est d'un côté, je partageais entre d'un côté, c'est ultra con et c'est du foutage de gueule. D'un autre côté, bon, bah, s'il y a des gens pour l'acheter, ok, si ça permet à Urban de réinvestir le pognon dans d'autres séries. Tu vois, des séries qui.
Je suis persuadé que ça va marcher.
Hein. Ah oui, non, mais ça. Marcher, ça va marcher, mais s'ils peuvent, par exemple, je sais pas, ça permet de faire levier et d'enclencher la publication d'autres trucs, genre Lucifer chez Vertigo, des trucs un peu lourds, ça serait pas mal.
Oui, et surtout, ça permet aussi de relancer une partie kiosque qui est un peu à la ramasse depuis un certain temps dans les comics.
Sauf que ça sort en librairie, si je ne dis pas de bêtises.
Je crois bien, je crois que ça sort en librairie.
C'est vrai.
Ouais, c'est possible.
Ça sort en kiosque, mais du coup... Ben,
que disent tes notes, juste. Que disent tes notes, juste. Ouais.
Et gars, j'ai pas de notes là-dessus, je me suis dit, allez, improvisons, bah, ça n'a pas marché.
Ah, c'était pas ta news, ça, alors? Ah mais non, c'était la mienne de base, effectivement.
Oui. Oh putain.
Pas besoin de me perturber, je présente. Mais ouais, non, c'est ça, c'était bien, c'est en librairie que ça va sortir.
Ah ok, bon bah je vois pas l'intérêt.
C'est honteux.
On va rester là-dessus. Et là, par contre, c'est bien ta news, Just, avec l'arrivée de Deceased chez Urban Comics, qui arrivera le 20.
Et là, je vois l'intérêt. Parce que donc Deceased, c'est avant tout... un comics de Tom Taylor et Trevor Ersin qui en gros c'est un peu Marvel Zombie à la sauce DC. Toute la Terre a été contaminée par l'équation d'antivie, donc ce que recherche Darkseid tout au long de sa vie, et en gros c'est un titre de zombie. Après, on pourrait s'attendre seulement à du gros cassage de zombies pendant tous les 6 numéros, mais c'est pas du tout ça, parce que Tom Taylor, il en profite pour développer justement les personnages qui n'ont pas été transformés, pour former une sorte d'alliance de tous ces héros-là, et vilains d'ailleurs, essayer de voir comment ils arrivent à survivre dans un monde apocalyptique. Et donc c'est le traitant de ces personnages qui est vraiment intéressant dans ce comics. Au début, ça part un peu moyen, le scénario est pas ouf, mais de numéro en numéro, ça s'améliore. Et donc c'est cool que le public français puisse découvrir ce genre de titre, qui est un hors continuité, mais qui n'est pas sans intérêt pour autant.
Et là, pour le coup, Urban a été hyper rapide, quoi, parce que si tu lis pas de bêtises,
oui, bah, d'ici, ça se fait. Il reste encore un numéro à publier.
Ouais, c'est ça. Donc,
faut dire que c'est ce qui marche le mieux chez DC depuis un certain moment, quoi.
Ah ouais, les ventes sont hautes pour DC.
Bah, c'est le premier chez DC devant Batman, Justice League, toutes ces conneries. Et à un moment où là en ce moment Marvel met une petite piquette à DC en termes de vente avec tout ce qu'ils font sur Carnage et tout ça qui marche hyper bien, bah, c'est un peu le seul truc qui sort la tête de l'eau chez DC en ce moment.
Bizarrement, la qualité chez Marvel marche mieux que chez DC, c'est bizarre. Hein.
On va pas. Ouais, après voilà, je sais pas si on peut déjà donner un avis de sur le Deceased.
Attention, est-ce que ça serait pas une review que t'es en train de faire, Sledi?
Bah, c'est vrai. Hein. moi je dirais ouais, si c'est votre trip, mais je sens que ça va pas être si bien que ça. Hein.
Moi je dirais que non. Moi je dirais que non, que si vous voulez acheter un truc sur les zombies, achetez Marvel Zombies, et que 25€ c'est trop cher pour ce que c'est. C'est juste un gros délire, mais ça vaut pas 25 balles. Donc passez votre chemin.
C'est 22,50. Ah pardon, 22,50.
Ouais, quand Urban aura réussi à faire un site stable, tu vois.
Bon, on va rester là-dessus pour la VF alors. C'était très optimiste, c'est beau. Et donc, pour entamer les news VO, une très belle news aussi. Lors de la New York Comic Con qui s'est déroulée la semaine dernière, en fin de semaine, Dan Didio et Jim Lee, qui fait des trucs parfois, a annoncé que DC allait introduire un truc fantastique. Genre, c'est... Personne n'y croit, c'est merveilleux. Ce qui s'appelle la DC Timeline. Qu'est-ce que c'est, la DC Timeline? Eh bien, c'est... ça va être une chronologie qui va recenser toutes les périodes de DC Comics. Donc, on va voir la première période, Dawn of the Heroic Age, donc qui débute avec l'arrivée de Wonder Woman dans le monde des hommes avant la Seconde Guerre mondiale, puis Space Age, avec l'apparition de Superman, ensuite Age of Crisis, donc tout ce qui s'étend entre Crisis on Infinite Earths et Flashpoint.
Et voilà, enfin, donc tout ce quand c'était bien.
Exactement, et enfin l'apparition de Flashpoint.
Parce quand c'était pas bien.
Ouais. Et on va parler de ça après, mais déjà ce que je trouve fantastique, c'est Dan Didio qui explique qu'en ce moment, chez DC, il commence à comprendre comment la continuité fonctionne.
Yes.
Et ce commentaire, je le trouve merveilleux.
Mais c'est ça, il réinvente la roue, en fait, tu vois, parce que tout ça, ça existait déjà. C'est juste qu'il a donné un nom sur chaque période. Et ça va pas plus loin que ça.
Il a rendu ça officiel, sauf que on n'a pas accès aux fichiers. Personne n'a accès à leur chronologie, quoi. Enfin, t'as des petites images toutes floues, là, tu captes rien, t'as juste deux, trois photos. Et puis bon, enfin, je veux dire, on savait quand même plus ou moins comment ça s'est passé, quoi. Donc, il y a plein de gens qui pensent que c'est la plus grosse news de la New York Comic Con tout entière. J'avoue que je comprends pas trop le.
Ben non, c'est la plus grosse news parce qu'il y a que cette news, en fait. Genre, DC a été pitoyable, faut le dire. La San Diego Comic Con, il y avait déjà rien. Mais bon, on disait, la New York Comic Con va se rattraper. La New York Comic Con, il n'y a rien. La frise, la timeline, c'est la seule chose qu'il y a. Et la seule chose que ça nous apprend plus ou moins, c'est que, contrairement à ce que moi je voyais, Wonder Woman arrive avant Superman, tu vois. Mais hormis ça, on n'apprend rien. Et d'ailleurs, tu vois bien que DC n'est pas du tout cohérent parce qu'on te met des phases, des générations, mais si on réfléchit bien, on exclut par exemple Batman Beyond, qui devrait par exemple être dans une génération. Mmh. Aussi, oui, bah, si on fait une vraie timeline. La 5G. Et donc, du coup, la timeline exclut déjà des trucs d'office qui appartiennent à l'univers et qui en font quand même partie, tu vois, qui sont partie intégrante, surtout avec ce que Snyder est en train de faire sur Justice League là actuellement. Sans spoiler, Batman Beyond, ça prend une place. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de prendre les gens pour des cons.
Oui, mais même avec ce que fait Bendis avec les Legion of Super Heroes et avec le Millennium, quoi. Genre, Bendis fait le futur avec ces deux trucs qui est la même chose, en fait. C'est une chronologie, mais mise en scène, quoi. C'est juste ça. Du coup, Bendis a fait ça. Pour le passé, le présent, bon, bah, ils ont fait ce merdier. Qui retrace, j'imagine qu'il y en a que ça excite, quoi, mais je veux dire, il y a des gens qui pensent vraiment que c'est la plus grosse news de toute la convention, même si tu regardes la concurrence, quoi, je veux dire.
Alors que tout le monde sait que c'est Donny Cates sur Thor qui est la plus grosse news.
Ouais. Non, mais c'est vrai que nous, on sait pas ce que va faire DC en janvier, par exemple. J'ai aucun auteur spécifique ou de changement ou de titre de nouveauté et tout en janvier. Normalement, là, il y a les sollicitations qui devraient peut-être pas tarder. Hein. On est le 8 octobre quand on enregistre ce podcast. Normalement, j'ai déjà 2-3 trucs à écrire et enfin, là, j'ai rien du tout. Quoi.
Mais franchement,
c'est Batman en fait. C'est l'équipe créative de Batman et tout le reste, on connaît rien.
Et le panel Harley Quinn qu'on a eu. Mais je pense que là, je le pense sans troll. Je pense que d'ici, peut-être à un moment donné, ça aurait se dire on n'y va pas. On va pas à la New York Comic Con ou des trucs comme ça. Parce que si pour passer pour des cons, c'est pas la peine. Regarde, cette année à l'E3, t'as Sony. L'E3, c'est le plus grand salon de jeux vidéo du monde. Sony a dit on n'y va pas. Enfin, on n'a rien de particulier à présenter, ça sert à rien, on va passer pour des cons. C'est pas la peine. Et si on a vraiment un truc lourd à annoncer, on l'annoncera ailleurs ou on fera un autre truc. Mais là, ça sert à rien. Si c'est pour se pointer et faire ça, c'est vraiment pitoyable.
Ouais, en fait, ils devraient juste envoyer leur scénariste et dessinateur et basta, quoi.
Ouais, voilà, c'est tout. Genre, parler de leur titre vite fait s'ils veulent y aller, mais arrêter de faire je sais pas combien de panels pour rien dire parce que c'est ridicule.
Mais surtout, le seul intérêt que je vois à cette chronologie, c'est nous qui connaissons un minimum la timeline des comics, ça nous importe peu. Mais je me dis que pour un public qui essaye de s'initier à ce genre de choses, c'est peut-être intéressant d'avoir des bases là-dessus. Mais c'est vraiment le seul intérêt que je vois à ce genre de chronologie.
Ouais, mais ça va leur apporter un max de contraintes, quoi, en fait. Parce que avant où c'était.
Ça va leur apporter un cadre, quoi, surtout.
Ouais, mais le cadre, pour moi, c'est pas une si bonne chose que ça, quoi. Avant, ils avaient une espèce de liberté dans ce qu'ils pouvaient injecter ou pas.
Ah, pour les auteurs, tu parles ?
Ouais, pour les scénaristes. Alors maintenant, bah, y a un truc vraiment. C'est ça. Et. Oui. Ouais.
Ouais, ça peut
mais il y en aura toujours pour sortir de ce cadre-là et ça fera des trucs quand même. Et puis ils vont retrouver un nouveau nom pour le nouveau truc qui aura été créé.
Ouais.
Comme là, si tu parles d'une sorte de reboot ou d'une crisis qui remet les choses à plat, mais.
Là, il a dit Didio qu'ils ont compris que les reboots ça fonctionnait pas.
Attends, mais Didio, je pense qu'il faut arrêter de l'écouter aussi. Hein.
Oui. Oui, aussi.
Ouais, mais c'est pas trop. Bon.
Ouais.
On va pas écouter Jim Lee, il dit rien.
Mais non, c'est ça, bitch.
Il est enfermé dans une cave.
Donc voilà. Il voilà, n'y a pas grand chose à dire sur, certes, sur la timeline. Quoi. Ça, je pense pas que ça attire non plus de nouveaux lecteurs. Hein, parce que si tu regardes un peu les nouveaux lecteurs, ce qu'ils demandent, c'est environ qu'est-ce que c'est les News 52, qu'est-ce que c'est Rebirth. Et après, sinon, ils se rabattent sur des tomes comment ça s'appelle, qui réunissent des grandes histoires, genre, je sais pas, A Long Halloween. Tu vois, genre, ils vont pas aller chercher. Enfin, je vois mal quelqu'un qui part en mode « Ah, je vais redécouvrir le Batman de 1982 à 1985 ». Non, personne fait ça, en fait. Genre, les gens, ils vont lire leur tome avec des histoires précises et ça va rien changer, en fait.
Bah,
et puis, ça sert à rien de faire
chier. Ouais. Et je fais exactement ce que tu as dit quand les gens...
Oui, mais t'es pas un nouveau lecteur. T'es pas un nouveau lecteur. Oui. Ça aidera pas les nouveaux lecteurs. Et d'ailleurs, en plus, si on veut parler de lectorat... La preuve que bah on s'en branle puisque le titre qui marche le mieux bah c'est Deceased et Deceased il est pas sur la frise donc certes. Bon
c'est vrai mais où est Doomsday Clock dans tout ça
où est Batman Damned
laisse le finir
non ça c'est oublié de l'histoire déjà
et ben en parlant de Batman est-ce qu'il serait pas temps de parler de la nouvelle équipe créative derrière Batman donc avec James Tynion IV au scénario et Tony S. Daniel au dessin. Juste, c'est à toi.
Eh bien, il y a une nouvelle équipe créative derrière Batman.
Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses ?
James Tynion IV et Tony S. Daniel. Bah, ce que j'en pense, c'est plutôt mitigé. Ouais, je suis plutôt positif pour Tynion IV et Tony S. Daniel parce que c'est des personnes qui ont déjà contribué à l'univers du Chevalier Noir. Tynion IV, il a fait le Detective Comics de Rebirth. Et en ce moment, il est sur la Justice League Dark. Et il travaille plutôt bien ses personnages, il fait des bons team-up avec toute la Bat-Family, notamment. Et donc, c'est plutôt intéressant. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est qu'il a dit qu'il faudrait lire Year of the Villain, Hell Arisen, avant de lire son titre Batman.
Ah, ouais, après, ils disent tout ça, c'est de la promo, c'est de la gamme.
C'est pas obligatoire.
Ce qui voudrait dire que ce titre est lié au run de...
Bah quand t'as le
sur Justice League et j'ai peur.
Quand t'as le bras droit de Snyder qui écrit sur Batman, tu te doutes bien que ça va faciliter les choses pour que ça soit pour que ça s'incorpore dans le contexte actuel quoi.
C'était, non mais
c'était obligé.
En début de numéro, il y aura un petit résumé.
Un seul numéro d'Year of the Villain donc.
C'est pas bien.
Ouais. Il est one shot.
Non mais il se passe pas grand chose.
Plus intéressant, c'est que l'auteur, il a dit que ce serait un titre vraiment action, horreur, avec beaucoup de mystère, et où chaque numéro fera appel à une pièce maîtresse du mythe du Chevalier Noir, genre des nouveaux véhicules, des lieux emblématiques, des super-vilains qu'il va ramener. Mmh. Et vraiment centrer l'histoire autour de Bruce Wayne. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant, surtout que Tynion IV, en général, il écrit bien, surtout dans l'horreur. Donc,
ouais, c'est ça, il reste dans son... Il reste dans son, comment dire, dans un truc qu'il connaît bien, qu'il sait faire. Et ça va pas faire redite avec Detective Comics, vu que, comme tu l'as dit, ça va être sur Bruce, enfin, ou sur Batman, sur lui, quoi, et pas sur ses alliés, contrairement à son run sur Detective Comics, où c'était vraiment genre, Batwoman, Tim Drake, les autres, quoi.
Mais ce serait pas redondant.
Des personnages, ouais.
Est-ce que ce serait pas redondant avec le run de Tomasi à côté?
Ils ont l'air de s'être mis d'accord sur les histoires qu'ils font, alors j'imagine qu'ils vont quand même essayer de faire quelque chose de différent. Tomasi est pas du tout mystère horreur en ce moment.
Non, et puis ils sont perdus entre les titres Batman. Si tu lis actuellement les titres Batman, tu sais pas quand quoi se passe exactement en fait.
Ah, c'est clair.
Parce qu'il y a un numéro.
Officieusement, il y a un crossover de prévu entre les deux. Ouais. Donc,
il y a un numéro, je vais pas spoiler parce que c'est un truc assez important du run de. Qui run actuellement de King, mais il y a un événement particulier, il y a un personnage qui meurt, et du coup, tu sais jamais quand se passent les événements par rapport à ça. Et puis, c'est toujours bien, tu vois. Je suis content que Tony S. Daniel, en fait, reste au dessin, parce que bon, la dernière fois qu'il a écrit un truc, c'était avec Venditti, il a écrit Damage, et du coup, c'était de la grosse merde. Et moi, je suis bien content que le gars, il est dessinateur, il dessine bien, il reste au dessin. Voilà, ça, c'est bien ça.
Ouais.
Parfois, je le trouve pas hyper inspiré dans les dessins. C'est pas toujours.
Ah bah, tu l'as pas vu inspiré à l'écriture, alors. Que,
oui, mais... Ouais.
Non, mais sur Batman, justement, pour Tom King, c'est vrai que ces numéros sont pas les meilleurs, quoi.
Mais grave.
C'est pas, moi, ça allait, les numéros pires, mais... sur Booster Gold, je sais plus quand
c'était. Je sais pas, je trouve qu'il est un peu perdu. Alors, je sais pas s'il a changé de coloriste ou de... Je sais qu'il a pas le même coloriste que dans les New 52, ou d'encreur, je sais plus. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à retenir les noms de ces gens-là, de ces gens de l'ombre. Mais ces dessins, ils sont quand même différents, quoi. Après, je trouve que le Batverse, ça lui colle bien, autant qu'à Tinian Four. Moi, ça me tente bien comme équipe.
Tout à fait, mais du coup, ce sera pas Priest.
Non. Là, le prophète à la con. Non, mais bientôt, ouais. Vous verrez. Chaque fois qu'il y aura un changement, je dirais, vous verrez, c'est maintenant.
Et bon, on va rester dans l'univers Batman. Le récit Free Joker de Geoff Johns et Jason Fabok, ouais. Est-ce qu'il sera dans la continuité selon Jason Fabok? Oui. Et c'était toi, Just, si je dis pas de bêtises.
Ouais, mais justement, selon Jason Fabok, pas vraiment. Parce qu'il dit que
pourquoi
c'est dans la continuité.
Oui,
mais... ce que dit Jason Fabok, c'est que l'événement sera dans la continuité, mais les fans pourront choisir s'ils l'incluent ou pas dans la continuité.
Ah oui, c'est ça.
Ça va être un vote, voilà. Comme pour la mort de Jason Todd.
Mais non, mais ça sera
non,
en lien de
voir Killing Joke. Il a pris comme exemple Killing Joke, qui ouais, avait des conséquences importantes pour Barbara, par exemple, mais dont le récit peut être complètement pris séparément de la continuité.
C'est hors continuité à la base, et puis au final, ça, ils l'ont incorporé parce que d'ici, quand quelqu'un a une bonne idée, que ce soit un dessin animé ou un film ou je sais pas quoi, bah, il le garde, quoi. Ce qui est normal. Et
là,
fait,
ça va être l'inverse de Killing Joke. Là, ça va être l'inverse de Killing Joke. C'est dans la continuité, mais après, les fans, ils peuvent décider s'ils le prennent ou pas.
Ben, de toute façon, c'est le cas. C'est comme on en a parlé dans un autre podcast, mais tout ce que fait Scott Snyder, c'est dans la continuité. Mais tout ce qui est nul à chier, ben, tout le monde décide de l'oublier d'un commun accord, tu vois. Genre, le demi-frère de Bruce.
Ouais.
Bon, bah, c'est bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'existe plus parce que.
Même Snyder l'a oublié, c'est pour dire.
Ouais, voilà. Harper Row, bon, bah là, on est. Enfin, il y a Young Justice qui a essayé un truc, mais sinon, bon, bah, est-ce que quelqu'un a envie de la revoir? Non, bon, bah, on la balaye, elle n'existe plus.
Non, elle était revenue dans Detective Comics.
On a dit Teen Titans aussi. Mais Teen Titans.
Ah, ouais, mais ça, on en fait Teen Titans.
Avec Corias, hein. Bon bah voilà, mauvais exemple. Mais le demi-frère de Bruce, c'est un bon exemple.
Oui, oui.
Ça ne devrait pas exister. Ça a plu à personne. Bon bah ça dégage.
Oui. Bah après, il y a en dehors de Jason Fabok, il y a Geoff Johns aussi qui a parlé du titre pendant la NYCC, où il disait que vraiment ce serait une coopération entre Batman, Jason Todd et Barbara Gordon pour enquêter sur ces fameux trois Jokers dont ils ne savent rien et dont tous les éléments sont distillés le long de la continuité de Batman. Donc ce serait vraiment une recherche dans toute la continuité pour trouver ce qui se passe vraiment avec ces personnages.
Et puisqu'a priori le truc, ce serait un peu qu'il y en ait un qui est tué Jason, un autre qui est celui de Killing Joke, celui de Un deuil dans la famille, et le dernier, on sait pas trop quoi. Mais vu que c'est les trois traumatisés par le Joker, quoi.
Mais à la base, je pense que ça devait être pris dans la continuité. Le problème, c'est que quand ça a été annoncé il y a un bon moment. Et on était un peu en mode Doomsday Clock, ça va avancer normalement, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est que depuis que ça a été annoncé, il y a énormément de choses qui se sont passées. Entre les métals, les machins, etc. Et du coup, Geoff Johns y est passé au second plan. Et donc, ce qui était prévu pour être vraiment principal, finalement, ça ne l'est plus, ou alors soumis à condition, et on verra.
Il a toujours son statut de auteur qui fait du fric, quoi. C'est vrai que dans la continuité, ça colle pas vraiment. Alors ils essayent de le mettre un peu en dehors, quoi. C'est pas faux. Même si Bendis avait dit qu'il incorporait Doomsday Clock dans son récit de la Légion, c'est déjà une bonne chose, quoi. Snyder a pas l'air de vouloir faire le même effort avec la Society, mais C'est vrai que c'est dommage, mais c'est vrai que tu m'as fait me rappeler que Jeff Jones, à la base, il est censé avoir un imprint rien que pour lui, et puis au final...
Ouais.
Bon bah...
on ne l'a jamais vu.
Ça n'existe plus. Hein. Vu que c'est dans le Black Label, de toute façon, c'est Joker.
Ouais, celui-là, ouais.
Par contre, je viens de voir qu'il y avait une faute dans le programme. C'est pas Free Joker, c'est Free Jokers. Je trouvais aussi que ça avait, c'était pas logique. Bref.
Oui,
ce programme, il est fait n'importe comment, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait?
Je crois que c'est celui qui est pas là. Hein.
Ouais, c'est absent.
Donc, on va passer sur...
D'ailleurs, on le salue pendant qu'il monte ce podcast.
C'est vrai.
Parce qu'en plus, il n'est pas là. Et en plus, il travaille pour nous.
Oui, donc, on va passer à la news suivante avec le Sandman Universe et la preview de Constantine et le changement d'équipe de The Dreaming. Je ne sais pas qui c'était.
Il n'y a que moi qui les lis, de toute façon. Si,
non,
quelqu'un
moi
d'autre
aussi.
Ah.
Ouais. Mais vas-y, parle-en.
C'est bien que Constantine revienne. J'aurais préféré qu'il revienne sous un truc un peu plus horreur que sous le label Sandman Universe, qui n'est pas vraiment de l'horreur.
J'ai lu des reviews de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, Machin Magique, là. C'est la date de l'horreur. Hein.
Ouais. Non, mais c'est juste que c'est...
C'est gore, c'est pas...
C'est beaucoup trop... C'est ultra con, en fait. Genre, c'est une parodie, c'est une parodie trash de Harry Potter, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Lucifer, c'est vraiment cool. House of Whisper, c'est même pour les fans, t'es un peu là en mode c'est quoi ce titre déjà, tu vois. Et
c'est cool, mais c'est compliqué.
Ouais, tu comprends pas trop où il va. Enfin, et The Dreaming, c'était cool, mais c'est vrai que des fois on se fait un peu chier quand même.
Ouais.
Mais visuellement, là, le dernier numéro, il envoie pas mal niveau visuel. Enfin, il trouve toujours des idées pour représenter le rêve, le machin, et ça, c'est vraiment cool. Du coup, une nouvelle équipe, peut-être que ça sera un peu plus fun à lire. Ça permet de redonner du peps, et visuellement, ça peut toujours être cool. Parce que ça permet de laisser aux mecs faire plein de choses, en fait.
Ouais, attends, parce que...
Et donc, cette équipe pour The Dreaming, c'est. Et ça, c'est un peu surprenant.
J. Willow Wilson.
C'est ça. Et. C'est un peu une surprise parce que elle était partie de. C'est qui au dessin?
Nick Robles. Okay.
Et mais pour Wilson, c'est un peu une surprise parce qu'elle était partie du titre Wonder Woman, on le rappelle. Ça fait quoi, 2-3 mois? Et parce qu'elle disait qu'elle allait, on lui avait proposé un de ses rêves quoi à scénariser. Et c'est ça son rêve, c'est The Dreaming, franchement.
Oui. C'est un jeu de mots.
Oui. C'est son rêve. Dreaming.
Non, mais ok, je veux bien le jeu.
Mais je pense qu'il n'y a que ça, hein, vraiment.
Il n'y a vraiment que ça, je te jure.
Mais elle s'est fait virer dans Wonder Woman, c'est pas possible.
Étant donné que c'est pas bien, je sais pas.
Ça sort de la merde.
Mais en même temps, je la vois tellement pas écrire un titre pareil.
Mais tu vois, ça serait, par contre, même si scénaristiquement ça venait à être à chier, ça serait cool qu'il fasse venir plein de dessinateurs qui ont un putain d'imaginaire et qui pourraient faire plein de choses. Alors, je sais que je suis chiant avec ça, mais je vais revenir avec cette histoire. Mais ça serait bien, même si c'est pas trop son style, mais faire revenir Ramon Villalobos, un mec qui s'est fait totalement virer pour aucune raison, parce qu'en fait, son scénariste.
Border Town.
Ouais, le scénariste de Border Town, il était taquin, tu vois, avec les femmes au boulot. On va dire ça comme ça. Et le problème, c'est que ce gars-là, il s'est fait virer, mais genre, il est pour rien, quoi. Genre, ouais. le gars, on lui a dit, tu veux dessiner ça, c'est super imaginatif, Mexique, machin. Il a fait, ok, j'y vais. Il s'est envoyé. On lui a dit, ouais, mais ton scénariste, il fait des carabistouilles, du coup, tu dégages. Alors que ce gars, il est pour rien.
C'était magnifique.
Ouais, c'était ouf visuellement. Il y avait plein d'idées pour les petits monstres et tout.
Ouais.
Et ça serait bien que ces titres-là, parce que bon, on sait très bien que c'est pas des grandes œuvres, hein, on va dire que c'est les spin-offs sympas, mais dispensables. Ça serait bien qu'il fasse quelque chose. Sauf pour Lucifer. Lucifer, je suis quand même, selon comment ça part, ça pourrait être quand même quelque chose de pas mal. Les autres, non, c'est des trucs qu'on oubliera.
Ouais. Et du coup, le retour d'Hellblazer sous le même label, qu'en pensez-vous?
Brody, il préférait un truc plus horreur. D'avis pour.
Après, moi, j'ai vu les 10 pages de preview qu'ils ont publiées. Et j'ai trouvé des dessins vraiment cool. Ça reprend un peu l'univers de The Dreaming au niveau des couleurs. Mais en mettant du
dessinateur
Marcio Takara.
Ok.
Bon, ce sera pas lui sur le ongoing d'après.
Ah ouais, il est juste pour le one shot.
Ouais, c'est juste pour le one shot. Après, après,
il me semble que si. Hein.
Non. Écoute.
Après, l'avantage, c'est que si on part comme ça, parce que bon, on va pas se mentir, Constantine et l'univers de Sandman, c'est un numéro. Hein. Genre, c'est vraiment. On s'en fout. Par contre, alors je sais pas à quel point les titres se vendent, mais si ça permettait de faire revenir pas mal de trucs, des titres magiques, tu vois. Même si c'est pour 6 numéros, par exemple, je sais pas, mais. Non, j'ai pas de Zatanna ou des trucs comme ça. Ça pourrait être cool.
Ouais,
ouais c'est vrai.
Bah, y a déjà un peu ça dans Justice League Dark en ce moment.
Ouais. Non, mais ces titres-là, c'est des titres qui sont vraiment pas surveillés. Tout le monde s'en fout. Tu sais que Neil Gaiman, il surveille, mais en fait, non, il s'en fout. Il a juste pris le chèque. Et du coup, si les mecs ont une vraie liberté, lancez-vous et faites des trucs parce que ça peut être cool.
Mais en plus, DC a pas l'air de vouloir lâcher ce truc, hein, donc. Autant qu'il fasse quelque chose de bien avec.
C'est ça qui est paradoxal, c'est que, tu vois, je suis désolé, mais on me dit Vertigo, c'est mort, machin, etc. Et là, on recommence en mode, vous savez, Sandman Universe, ce truc de Vertigo, si on calait pas un petit Constantine, tu fais, mais pourquoi vous le sortez pas sur le Black Label? Enfin, les gars.
Mais c'est Black Label.
Ouais, enfin.
C'est ils l'ont rapatrié sous la bannière Black Label.
Ouais, le fameux, mais tu vois, c'est ce côté on lâche, mais pas trop. Parce qu'au final, il n'y a pas de titre sur le Black Label, en fait. Non plus, enfin, on va pas se mentir.
Ça arrive, t'inquiète. On y arrive.
Ouais, bah, pour finir sur Hellblazer, c'est toujours mieux d'avoir un Hellblazer mature, même si le Black Label, en termes de maturité, il y a encore du travail. Hein. Mais au moins, le truc que tu avais soulevé, le fait que, enfin, je sais plus si c'était toi ou, enfin bref, que dans Harleen, ils censurent fuck quand c'est un verbe et pas quand c'est une onomatopée, quoi. Enfin,
ah, c'est quand pas c'est moi, j'ai même pas fait gaffe.
Je sais plus où est-ce que je l'ai vu.
Ah ouais?
Parce que je l'ai lu juste après avoir lu ta review, je pense. Alors. En gros, ils censurent quand ça parle de faire des choses avec quelqu'un, tu vois. Parce que ça, c'est mal, ça, il faut pas que les gens sachent. Par contre, la violence, tout ça, ça passe. Mais le cul, ça passe pas.
Oui, bah, oui. C'est les Américains, hein. Ils ont toujours été comme ça.
Bon, non, mais ils ont un gros problème, parce qu'on.
Et du coup, petit aparté, mais pour Hellblazer, bon, c'est toujours mieux de le voir dans un truc où il a le droit de dire des gros mots et fumer des clopes que ailleurs, même si dans JL Dark, il est tout à fait acceptable. Et le dessinateur de l'ongoing qui commencera en novembre, c'est donc Aaron Campbell, qui a dessiné Infidèle.
Très bien alors.
Ouais, et ça pourrait même très bien coller à l'univers de Constantine.
Ouais.
Donc voilà, c'est sous les bons auspices, on va dire.
Eh ben c'est beau, il y a de l'optimisme dans ce podcast, ça change.
Attends le titre d'après.
Plunge par Joe Hill et sur Immonen pour le...
Non, je parlais de la deuxième des News VO.
Ouais, mais attends...
On regarde pour la fin.
Ça doit être toi, c'est le jeu, je pense.
Je peux en parler, oui, effectivement. Donc, du coup, le Black Label, vu que c'est un fourre-tout chaotique et sans aucune ligne éditoriale, il y a le Sandman Universe, il y a la vitrine pour les films DC, il y a aussi un imprint qui commence ce mois-ci qui s'appelle Hill House Comics, donc. Et du coup, qui est un peu chapeauté par Joe Hill, qui est c'est le fils de Stephen King, non? C'est ça?
Ouais.
Et qui lui-même. Pardon. que le maître de l'horreur King. Et du coup, Joe Hill, lui aussi, écrit des histoires fantastiques, horrifiques, ce genre de trucs. C'est aussi un peu, voilà, il est pas très, il sait pas très, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre.
Mais c'est pas, c'est pas un parvenu, quoi. Le mec est quand même un peu doué.
Oui. Oui, c'est pas un troufion qui s'est fait pistonner par son père. Quoi,
c'est ça.
Et du coup, donc là, ce mois-ci, il commence la ligne avec Basket Full of Heads. Mais la news, parce que ça date d'il y a quelques mois, la news dans ce moment, c'est qu'il va sortir un comics en février qui s'appelle Plunge, qui sera un peu son The Thing de John Carpenter, un peu revisité. Et que le mec se paye les talents de Stuart Immonen pour dessiner son petit comics. Ce qui est, on va dire, une très bonne nouvelle, puisque déjà, Immonen avait arrêté de dessiner, que ce soit pour Marvel ou DC ou quelconque entreprise. Et que là, il revient pour un titre, j'ai envie de dire indé, dans l'esprit, quoi.
Ouais.
Et il s'est exprimé sur son retour ? Sur ce qu'il a motivé ? Non ?
Enfin, j'ai rien vu de sa part.
D'accord.
J'ai peut-être raté.
Et donc, ça sera pour février 2020, je ne sais plus si on l'a dit.
Oui, février 2020, on a encore un peu de temps. Hein.
Ouais. Et donc là aussi, c'est une attente.
Il y a pas mal de titres qui sortent sous la bannière Hill House.
Ouais, un par mois, donc, quasiment.
Ouais.
Et tous ont l'air pas trop mal. Hein. Il y a des dessinateurs qu'on connaît pas forcément, qui sont pas très populaires et pourtant qui sont pas trop mal. Et puis il y a deux trois noms assez connus. Je sais qu'il y a Kelly Jones qui a un titre. Donc le mec de Batman Vampire, ce genre de trucs qui sont vraiment stylés. Et puis il y a un scénariste aussi qui m'est sorti de la tête que Blue aime bien. Vas-y Blue, dis-moi un scénariste que t'aimes bien.
Warren Ellis.
Ouais non, exagère pas non plus. Attends, non, je vais le retrouver. En attendant, vous pouvez dire ce que vous pensez de Plunge. Non.
Bah, moi, ça m'a l'air bien. Mais en fait, ce que je remarque, c'est surtout que DC fait bien de confier des labels comme ça à des auteurs, comme ce fut le cas aussi avec Young Animal par Gerard Way. Parce que eux vont chercher des auteurs qu'on connaît pas forcément et des dessinateurs qu'on connaît pas forcément.
Mmh.
Et ils leur laissent les rênes d'un titre et ça donne toujours des bonnes surprises. Donc ce sera à mon avis le cas aussi pour ce label-là. Donc ce sera forcément une bonne découverte et peut-être de très bonnes surprises au niveau des comics.
Et il y a Mike Carré.
Qui a voilà.
Ah mais oui, c'est Mike Carré.
Voilà. Tu l'aimes bien, on est d'accord.
Ouais, je l'aime bien, il a fait Lucifer, c'est un bon gars.
Ouais. Puis c'est un bon gars. Hein, qui est disponible chez Urban.
Ouais, si, il a fait ça.
Je suis un peu de pub.
Surtout qu'on a mal parlé d'eux au début, donc...
Excusez-nous.
Ouais, bah c'est mérité. Hein.
C'est vrai qu'on voit plus trop la couleur des valises d'Urban, hein, mais...
C'est vrai.
Bref, passons à autre chose. Bon, Blue, je l'ai trouvé un peu silencieux, là, depuis quelques temps. Donc là, c'est pour toi. Donc, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais on nous avait annoncé la reprise du titre Birds of Prey en ongoing par ni plus ni moins que Brian Azzarello. Et ben ça a mal tourné, on va dire.
Il ne fallait pas être un fils de pute, hein. Ça c'est déjà une bonne chose. Hein, parce que quand on commence à faire violer la moitié de ses persos et on part dans des délires bizarres dès qu'on a un nouveau titre, après, il ne faut pas s'étonner. Hein. Et moi je comprends pas pourquoi
non
je comprends pas pourquoi un attardé pareil qui dès qu'il touche un titre faut qu'il tire encore peur du viol, c'est-à-dire que Batman Dam c'était déjà pas mal, mais si vous avez lu Hellblazer là, vous avez carrément du viol zoophile, donc bon là on est un
le
nouveau
aussi, hein.
Allez tiens donc tiens
le fond d'amour en moi est offensé par ce que tu dis, hein.
Voilà tiens comme dirait Booba. Ouais. Et tu es là en mode mais Pourquoi, après tout ce qui s'est passé, pourquoi vous donnez un titre avec que des meufs sur un mec pareil, en fait, qui a un vrai problème avec ça. Le gars est devenu trop cynique pour l'industrie. Et bon, bah, damned, ils auraient dû quand même s'en rendre compte parce que tu sens que c'est pas cette fin. c'est pas cette fin qu'il voulait faire et on l'a progressivement censuré. Là, tu sens que, je sais pas ce qu'il leur a proposé, mais ça a été assez violent pour faire en sorte qu'ils prennent un gros nom et qu'on le mette dans la catégorie Black Label, c'est-à-dire le mature où tu es censé faire plus ou moins ce que tu veux, mais pas trop. Et on lui dise, par contre, même pour le Black Label, c'est trop chaud. C'est ça la vérité.
C'est ça, parce qu'en fait, ça a été relocalisé sur le Black Label et on n'a pas eu vraiment d'informations là-dessus. Mais il semblerait que bah, ça ne sera pas ongoing, quoi. Ça va juste être un numéro, un TPB et basta, quoi.
Et voilà. Parce que c'est un gars qui
se posait la question.
C'est un gars, enfin, je pense que ça fait partie, ça serait un autre débat à avoir, mais ça fait partie des auteurs qui vieillissent mal, d'accord, qui ont fait des bons trucs à leur époque, mais à un moment donné, je te dis, ils sont devenus trop cyniques pour l'industrie, et soit il faut qu'ils aillent faire de l'indé, soit il faut qu'ils arrêtent, mais, ou qu'ils se calment, tu vois, mais qu'ils fassent plus ça. Et il y a plein d'auteurs comme ça où, à un moment donné, on les respecte pour énormément de choses, mais quand ils font de la merde, ils font de la merde. Et c'est pas parce qu'il s'appelle c'est Azzarello qu'il faut lui passer. Comme, ouais, comme Miller, à un moment donné, comme Miller est parti dans ses délires un peu chelous à un moment donné, comme Moore est parti dans des délires chelous à un moment donné, comme, enfin, c'est des grands auteurs, on peut pas leur enlever ça, mais il faut dire stop quand les mecs pètent un plomb. Alors, je sais pas à quoi c'est dû Azzarello particulièrement, mais il faut, enfin, ces dernières années, Azzarello, c'est très très compliqué.
Et c'est... Bah, après, tu dis, tu sais pas à quoi c'est dû, mais le mec a toujours été borderline, quoi. Donc,
ouais, mais en fait, je trouve que quand il y a des. Si des... Tous les auteurs ont des thèmes qui reviennent, et parfois, c'est, tu vois, bon, regarde, King, c'est tout ce qui est PTSD, la guerre, le syndrome post-traumatique, tout ça, tu vois, ça revient à chaque fois, sa femme, la dépression. Ok, le problème, c'est que le délire d'Azzarello, tu vois, c'est le viol. Et ça revient constamment, et. S'il en parle, le problème c'est qu'il en parle d'une manière malsaine en fait. Il en parle en mode, regardez, hein, c'est du viol, hein, ça vous excite un peu. Et il y a un côté comme ça. Et ça c'est problématique par contre, parce que tu peux pas le laisser dire ça.
Est-ce que tu as lu sa série, elle est encore en cours en ce moment, Faith?
Non, je crois pas. Si peut-être j'ai commencé, mais je crois que j'ai dû.
Et bah tu la liras, je pense que tu vas apprécier.
Mais tu vois, c'est ce que je te dis, et je comprends pas. Enfin, quelqu'un doit à un moment donné lui dire stop, mon gars. Enfin, ça va pas. Ça va pas. T'es plus conscient de ce que tu fais, ou t'es conscient et il y a un problème.
Ouais, mais il y a toujours un nom qui fait vendre, alors vaut mieux le ranger dans le Black Label, là où il fait chier personne. Et...
Mais tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que DC connaît la. Enfin, a vu, tu vois, surtout en interne, c'est eux qui le gèrent, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont dû voir des trucs sur Batman Damned qui ont été très très chauds.
Ça avait un éditeur.
Non mais attends, quand tu vois que le numéro 2 de Damned, tu vois ce qu'il y a dedans, et on te dit le numéro 3 il est pas passé, il doit en refaire un. C'est-à-dire que tu dis, moi le numéro 2 de Damned je le trouve très 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 chaud, hein. Oui. Et ben tu dis que le numéro 3 c'était encore pire et ils l'ont refait faire, et on sort de cette débâcle. Et DC se dit, si on lui filait un titre avec que des meufs.
Ouais, surtout Birds of Prey, quoi.
Oui,
les mecs. Je comprends pas. Peut-être qu'il pense qu'il écrit bien les meufs depuis qu'il a fait Wonder Woman, qui avait hyper bien marché.
Et le pire, c'est qu'il est fier de sa connerie, tu vois. Parce qu'au début, moi, quand j'ai vu ça, je dis, bon, c'est Azzarello, il a ses délires. Mais quand tu l'écoutes un peu, le gars est fier de sa connerie. Il est en mode, ouais, trop bien, j'ai raison, les mecs. Non, tu vois. Au début, je suis, moi, à la base, j'ai un certain respect pour le bonhomme, mais actuellement, il y a une attitude de vrai connard. Et non, donc, c'est non.
En plus, le titre n'était pas prévu pour Black Label à la base, et c'est après que DC s'est dit, tu sais quoi, on va un peu repousser le truc, on va te mettre sur le Black Label, et ça veut dire à quel point
t'as
plus du cul, cette histoire. Hein, c'est que là, ça a encore parlé de trucs chauds.
Ça, je l'ai pas dit, me semble. Donc, ça devait sortir à la fin du mois, il me semble, le premier numéro. Et là, ça repart pour février prochain. Donc, le TBB, tous les numéros d'un coup. Ouais.
Le temps de tout réécrire.
Tu te rends compte que c'est dans la manière dont il écrit qui est trop malsaine. Parce que ce n'est pas ces thèmes qui sont abordés qui posent problème. Parce que sinon, à ce rythme-là, Identity Crisis, on le balance dans le Black Label. et le truc sur les New Gods, Femal Furies, un truc comme ça, je crois, bah ça aussi on le balance dans le Black Label parce que ça parle de ça. Ça parle du viol, ça parle de ces thématiques-là, et pourtant non.
Ouais, mais en vrai, Identity Crisis, je trouve
non, mais,
que c'est un bon exemple.
Hein. Mais ça reste quand même un traitement. Enfin, il y a quand même un traitement du viol qui est
dans le parle. Le limite, quoi, le traitement.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passe, et personne n'a jamais dit Identity Crisis, faut le passer dans une catégorie. Enfin, faut le placer dans le Black Label, tu vois. Surtout quand on nous a vendu.
C'était pas à l'époque.
Non, mais certes, mais personne n'a jamais dit c'est Vertigo, tu vois, ou un truc comme ça.
J'ai vu des gens se plaindre de Identity Crisis.
Certes, mais les gens ont dit que c'était hard, mais personne n'a dit putain, c'est un truc ultra mature, ultra dark, c'est un truc de taré.
Mais parce que c'est débile, de toute façon, ce truc de faut mettre dans une autre catégorie, un autre label.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est débile, mais en tout cas, c'est le système de classification qu'a DC actuellement. Aussi débile qu'il soit, c'est celui qui l'applique. Et en partant de là, tu te dis, mais quelle est la limite, en fait? Parce que, je sais pas où veut aller Azzarello, mais je pense qu'il va falloir qu'il parte en indépendant. Et je pense qu'à terme, s'il continue sur cette lignée-là, il va finir en indépendant, parce que ça sert à rien.
C'est déjà ça. Hein.
Oui, non, mais tu vois, il va passer définitivement, parce que ça sert à rien. Les grandes maisons d'édition vont plus voir le signer, parce que ça va pas des deux côtés. Parce que les grandes maisons d'édition vont lui dire « T'es bien gentil, t'as ton nom, mais on peut pas publier ce que tu fais, donc quelque part, on perd de l'argent. » À chaque fois qu'ils lui disent « Recommence », ils perdent de l'argent d'ici. Hein. Faut le comprendre. Parce qu'il le paye comme ça. Et lui, au bout d'un moment, il va se dire « Bah, moi, je suis dans mon délire et j'en ai plein le cul de pas pouvoir écrire les histoires que je veux faire. » Et donc, dans les deux cas, finalement, des maisons d'édition et de lui-même, les deux vont le conduire à se diriger vers l'indépendant. Et tant mieux. Tant mieux s'il va sur l'indépendant et qu'il y a des gens qui adorent ce qu'il fait ou que ça lui permet d'extérioriser un truc et qu'après il se lâche vraiment en indépendant et qu'il revient et qu'il est plus calme et qu'il revient comme il était avant, tu vois, un peu plus calme et avec des bons récits, bah, let's go. Mais actuellement, c'est plus possible.
Donc en gros, on va dire qu'il a besoin d'une bonne thérapie et plus d'écrire chez DC pour l'instant.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Mais c'est pas la seule nouvelle avec les Birds of Prey. Et la deuxième, bon, elle est pas aussi horrible que celle-là, mais elle est pas mal quand même. Donc c'est le retour d'un... Bah pas le retour, mais c'est un titre Harley Quinn and the Birds of Prey. Ne voyez pas une influence quelconque d'un certain film. Mm-hmm. Écrit par Conner et Palmiotti. Et il sera donc la suite spirituelle de leur run sur Harley Quinn. Si legit, t'avais l'air chaud.
C'est-à-dire que...
T'as abandonné
Harley Quinn par Palmiotti et Conner, élu pire titre des New 52, du DCU et
du... Ah, il y avait Suicide Squad. Hein.
Non, il y avait des trucs vraiment mauvais. Je sais pas. En vrai, ça serait... Un jour, il faudrait qu'on fasse un débat sur ça. Mais oui, c'est dans les pires. Ouais.
Le prochain top 10.
Parce que je me rappelle... pas Talion. Non, attends, t'avais un truc. Putain, je me rappelle plus. Mais c'était un rapport avec Convergence. Et t'avais un titre, Telos. Putain, Telos, c'était chaud.
Ouf. Ah oui. Oui, alors c'est vrai. Mais bon, là, je te parle d'une époque où Telos n'était même pas encore imaginé, où c'était un autre King, Jeff King, n'est-ce pas,
l'homme disparu
depuis.
Parce que Telos,
ils ont pas fait trop tôt.
Telos, ils ont pas fait 60 numéros.
Non, c'est vrai. Et là, ça continue encore, cette merde d'Harley Quinn. Enfin, voilà, moi, je fais des convulsions quand je lis ça.
Moi, je les ai tous lus, donc...
Putain, mais pourquoi?
C'est encore maintenant?
Ouais, jusqu'à présent,
Je
fais les vidéos, du coup, j'ai... Bah parce que je fais les reviews VO, quoi.
Ah putain.
Ouais. Mais personne te force, Blue.
Ah, je me suis engagé, mais.
J'ai mis tellement pas de multi, moi.
Je le lis en deux minutes. Hein.
Oui, bah, il y a difficilement.
Mais du coup, avec la nouvelle équipe créative, ça a pas changé de.
Non.
De thème.
Ah non, mais.
Bah non, on leur dit de faire la même chose à peu de choses près.
Bah je te dis, c'est toujours pareil. Ils essayent de. En fait. Dès qu'ils essayent de développer un propos, ils te l'entourent d'une masse d'énormes conneries en mode ouais, c'est trop fun, Harley elle est faux folle, etc. Et t'arrives à des numéros qui sont vraiment bipolaires. Enfin, cette semaine, c'était vraiment ça parlait du deuil de la mère d'Harley, etc. Et à côté, t'as plein de conneries. Et t'as 10 pages où ça parle du deuil, un peu comme il y a un moment dans le run du. Enfin, par exemple, un peu à la manière du Spider-Man de Straczynski, où à un moment donné, il peut parler, je me rappelle plus comment ça se passe, mais il peut parler à Oncle Ben 5 minutes, tu vois, un truc comme ça. Bah là, c'est pareil. Genre, il y a un mécanisme dans le style où il peut parler, elle peut parler à sa mère. Tu te dis OK. Et d'un coup, ça disparaît. Ça repart en mode c'est des énormes conneries. On fait les fous sur un canapé. Il y a des œufs magiques qui parlent. Enfin, bon, bref.
Des œufs magiques.
Ouais, non, mais c'était pas dans ce numéro, mais il y en a.
Ce n'est pas le sujet de toute façon. Le sujet, c'est que on a pris.
Mais au final, Harley Quinn. Vas-y.
Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
Harley Quinn et Birds of Prey sera exactement de la même chose.
Oui.
On a vu, il y a eu des team-up avec Poison Ivy, il y a eu Power Girl. Oui. Ça va faire exactement pareil.
C'est toujours nul.
C'est pas bon. Enfin, on va pas passer 3 heures. S'ils font un miracle, ils font un miracle. Mais bon, on l'annonce directement. Il y a quand même 99% de chances que ce soit de la grosse merde. Voilà. Enfin, c'est rien de dire en fait. C'est nul.
Là où c'est marrant, c'est que encore une fois, vu que c'est dans le bac label, qui est donc quand ça parle des héros d'ici, c'est vraiment genre la poubelle, les trucs pour qui ont rapport avec les films, tu vois, genre ah il y a un film qui sort, tiens on met un truc dans le bac label. Là t'as 4 trucs Joker qui vont sortir ou sur Harley. Là pour les Birds of Prey, donc ça fait déjà 2 trucs Black Label, Birds of Prey. Ça sert vraiment à quelque chose d'avoir 2 trucs au même endroit. Bon, ça va pas du tout être la même chose en termes d'ambiance, j'imagine, parce que déjà qu'est-ce que Amanda Conner et Jimmy Palmiotti vont foutre dans un truc mature, quoi. Ces mecs-là, je les vois tellement pas écrire un truc trash.
Conner a dit que c'était plus mature en tout cas.
Moi, je pense que c'est juste pour le format.
Sans doute.
Mais je veux dire, Palmiotti, hein, quand même, ce mec, quand il écrivait avec Justin Gray, c'était hyper bien ce qu'il faisait. Depuis qu'il écrit avec sa femme, c'est une catastrophe.
Mais dès qu'ils écrivent avec leur femme, c'est une catastrophe.
Hein. C'est vrai.
Non, mais en fait, c'est pas leur femme.
Calmons-nous.
Non, mais dès qu'ils sont. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Dès que t'as l'impression que dans cette industrie, dès qu'il y a des gens qui sont. Enfin, c'est compréhensible. Parce que quelque part, c'est un peu difficile dans un couple de dire tu fais de la merde. Enfin, oui. C'est délicat et t'as une tendance à dire ouais, bah, ce que tu fais ma femme, c'est cool. Et comme mon mec dessine, bah, c'est cool, etc. Mais en vérité. Ça fait 2 exemples pour dire que travailler en couple dans l'industrie, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est clair. Mais bon, bref, idée de merde, projet inutile qui va vendre, enfin qui va se vendre parce qu'il y a un film qui sort en même temps. Et écoute, je leur souhaite bon vent. Parce que moi, je lirai pas ça. Enfin, si, je vais lire le premier numéro parce que je suis un connard et que je paye pas mes comics, et voilà.
Qu'est-ce que t'as dit ?
Hein ?
Qu'est-ce que tu as dit ?
Ah, j'ai dit que j'avais quelqu'un qui me procurait mes comics, parce que voilà.
C'est ce qui me semblait. Et aussi, ça, que je l'ai pas dit, ça serait une mini-série en 3 numéros. Donc, ça va pas durer trop longtemps, vous inquiétez pas.
Ouais, c'est 3 numéros de trop, mais...
Ouais, mais
bon. C'est Black Label, quoi. C'est pour le format, c'est de la merde.
Ouais.
Restons là-dessus. on va passer maintenant aux écrans. Et avec, on reste dans le thème, le trailer de Birds of Prey, End of Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
Aïe, aïe, aïe.
C'est un très bon titre.
Oui, oui,
ils auraient pu appeler ça Harley Quinn and the Birds of Prey, c'était mieux.
Oui.
Trop compliqué.
En vrai, c'est pas faux.
Le public comprendrait pas.
Mais du coup, tout le monde peut faire son petit jeu de mots avec le titre pour faire des petits likes sur Twitter.
Je vois pas du tout à quoi tu fais référence.
Ah, putain, j'en ai vu au moins 30.
Je suis heureux de pas avoir Twitter. Putain.
Ouais. Bah, le trailer est sorti, je suis allé sur Twitter, j'ai vu que ça. Je me suis dit, ah, ça y est, chacun tente sa chance, qui sera le plus subtil, le plus subversif.
C'est quoi les blagues ? J'ai rien vu, moi.
Ah ouais ?
Je suis en train d'imaginer si j'ai vu sur Twitter.
Harley Quinn and the Something Something Birds of Prey.
Ouais, je crois que j'ai explosé.
Enfin, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer ?
Eh ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce trailer.
Ouais, t'es un vendu, toi.
Non, mais. Bon, déjà, que ce soit pas comme dans les comics, moi, je m'en fous. Franchement, j'ai juste envie de voir un bon film. Et ce qu'ils me vendent, c'est un espèce de film à la croisée entre du Matthew Vaughn et du Tarantino, avec un groupe de meufs. Et si, mec, même dans l'esthétique.
Oui, ça essaye en tout cas.
Ça essaye. Est-ce qu'ils vont réussir ? J'en sais rien. mais ça a l'air acidulé à fond. Il y a l'air d'avoir un Ewan McGregor qui s'éclate. Et non, moi j'ai envie de laisser sa chance et franchement, je pense que ça peut être vraiment bien.
Tu te rappelles du trailer de Suicide Squad?
Non, mais t'as vu qui avait derrière Suicide Squad?
Ça faisait très, très Tarantino et tout.
Non. Ça faisait rien du tout. Ça faisait. I think we are some kind of Suicide Squad.
Moi, j'aime bien Erwan McGregor dans le rôle de Sam Rockwell qui joue Sam Rockwell. C'est très intéressant. voilà, c'était mon intervention sur le trailer, c'est tout. La Yen, c'est le meilleur acteur. J'espère qu'elle sera oscarisée. Parce qu'elle mérite, tu vois. Enfin, un Oscar pour DC, ce serait beau. Tu vois. Après, l'Oscar avec Suicide Squad, vraiment tous les meilleurs films, ils récoltent leur Oscar. Donc, ça serait bien que la Yen. Elle n'a pas de page IMDB, j'ai cherché, les gars. Du coup, j'essaie de me renseigner pour le prochain podcast.
Moi, je suis juste choqué que Black Canary, elle a des cheveux bizarres.
Ça, moi, je suis plus choqué par Huntress, quoi.
Non, mais Huntress, c'est Margie Elizabeth Winstead et je ne peux pas être en colère contre cette femme.
Bah non, mais c'est ma waifu aussi, mais regarde, sans déconner.
Mais je m'en tape.
Je veux bien qu'il n'y ait pas le... En fait, c'est même pas une histoire de costume, c'est même pas une histoire de rapport avec le comics, ça ressemble à rien.
Mais elle peut être assise sur une chaise et ne rien faire.
Oui, voilà. C'est Ramona Flowers, c'est la waifu, mais
c'est ça.
Bon, ça craint.
Mais alors, j'avoue que il y a aucun des personnages que, enfin, je trouve aucun charisme à aucun des personnages. Ewan McGregor, c'est juste que j'aime bien le mec, mais honnêtement.
D'un côté, ils sont un peu, tu sais, genre, le problème, c'est que l'idée, c'est qu'il ait un masque, tu vois. Mais enfin, si
oui,
mais si tu lui mets un masque, mais ce que je veux dire, c'est que si tu lui mets un masque. Dans une bande-annonce, tu sais pas que c'est Ewan McGregor, du coup.
C'est ça, je ne cache pas Ewan McGregor.
C'est un problème de communication, tu vois.
Au cinéma, t'es obligé de montrer le visage du mec pour qu'on voit.
De toute façon, à la fin, il aura son masque.
Voilà, 30 secondes pour se battre.
Non, il va avoir une explosion.
À la place.
Oui, non, mais il va avoir un masque.
Voilà, il va avoir une explosion, le masque va être collé à sa peau, etc. Enfin, on sait que ça va se passer comme ça.
Mais voilà, je veux dire, tu regardes n'importe quel film de super-héros, il a jamais son masque sur sa gueule. Dans tous les films Spider-Man, il enlève son masque toutes les 15 secondes. Très énervant, mais en même temps, c'est pas avec un masque que tu vois les émotions du mec, quoi. Le seul qui monte, même Deadpool, il monte sa gueule tout le temps.
Alors qu'un petit Shazam, ça mange
voilà,
pas
de masque.
Zachary Levi, Superman de Cavill, il a pas d'émotion, donc.
Il a des lunettes des fois.
Et des moustaches des fois.
C'est vrai qu'il a des moustaches des fois aussi. Je n'ai toujours pas vu Justice League. Hein. Je ne l'ai toujours pas vu.
Mais tout va bien alors.
Je n'ai toujours pas vu ni Justice League ni Aquaman. Donc.
Bah, des fois, vu la parodie de Justice League, donc ça passe.
C'est vrai.
Ouais, je pense qu'elle était mieux de ce qu'on m'a dit. Tous les retours que j'ai eu, c'était que c'était mieux.
Oui. Mais tout était mieux.
Oui.
Tout, enfin, des fois je pense à Justice League et puis je suis en colère, quoi. En colère, je deviens violent.
Et c'est Squad, mes proches.
Ah, c'est encore pire.
Après, tu regardes JLXXX et là tu te dis putain, c'est vraiment beau ce qu'ils font.
J'ai revu Suicide Squad il y a pas longtemps.
J'ai revu Suicide Squad XXX et.
non, parce que. Alors, attends, déjà, je termine ce que je disais. Je l'ai revu il y a pas longtemps pour la deuxième fois, du coup, de toute ma vie. C'était encore pire que la première au cinéma. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voulez juste voir le Joker avant d'aller voir le film Joker. C'était important pour moi.
Tu voulais voir vraiment... Jared.
Voilà, c'était vraiment pour me dire, on a vraiment fait un bond en avant, quoi.
C'est Jared Leto, quoi.
Mais par contre, je ne regarderai plus jamais la version XXX que j'ai dû voir pour le travail.
Évidemment.
C'est bizarre, on est beaucoup à voir pour le travail.
Quelle conscience professionnelle.
C'est ça. Suicide Squad XXX, je ne l'ai pas fait.
C'est vrai.
Ni BVS. Écoute, BVS, je le garde au chaud, tu vois, en mode. Allez, les gars.
Vu qu'on n'est pas sur un podcast Black Label, on est sur un podcast tout public, je ne peux pas spoiler. La fin d'une scène, mais au secours, je veux dire, c'était horrible. J'ai eu mal pour le monsieur qui joue le Joker, je crois, du coup.
Ah oui.
Parce que Harley Quinn, elle fait un truc, j'ai fait waouh, mais non, putain, au secours, je veux jamais qu'on me fasse ça.
Ça arrive.
Voilà, et du coup, je ne conseille à personne.
Une glissade. Et...
dis pas ça.
Ah non, c'était vrai. Ouais, peut-être qu'il y en a qui kiffent ça. Bah, sûrement d'ailleurs. Mais...
Lou a conseillé beaucoup d'Opico la dernière fois. Donc,
C'est vrai. Que...
C'est vrai.
Ouais, mais
je sais arrive. Pas s'ils font ça dans beaucoup d'Opico.
Je peux faire exprès.
Je suis pas sûr.
Bon, et
je suis
donc,
pas sûr qu'ils jouent avec eux. Voilà.
Oui. Pour rester dans la même catégorie de qualité, on va parler de l'annonce de la CW. D'une série qui n'a pas de nom, il me semble. Là, il y a écrit Birds of Prey, mais c'est pas ça.
Mais c'est confirmé ou pas?
C'est confirmé que c'est en développement.
Ah, yes. Ouais.
Et donc, c'est une série qui va réunir tous les canaris de Birds of Prey, donc tous les personnages qu'ils ont ratés, histoire de bien taper la bête alors qu'elle est encore morte.
Ok, qu'elle est déjà morte. Tu raches.
Non, non, pas du tout. Et donc, ça réunira la. La Black Canary, que comment elle s'appelle, j'ai pas le nom des actrices moi. T'auras les deux Black Canary et la fille de Felicity Oliver qui feront un team up. Et bon, ce qui est marrant,
c'est Batwoman si ça marche pas.
Oh, peut-être. Qui sait.
D'ailleurs, à part là, Batwoman.
Non.
Non, parce que celui-là, il se passera dans le futur.
Ah, et, bah, c'est parfait.
Et mince, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est pas la première fois que la CW essaye de faire des espèces de spin-off de leur série.
Bah, c'est que des spin-off en fait. Depuis après Arrow, c'est que des spin-off. En fait.
Ouais, mais hors série de super-héros. Et en fait, ça n'a jamais marché. Genre, il me semble que pour Supernatural, ils ont essayé d'en faire genre 3. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc, c'est marrant de voir si celle-là, c'est un échec ou pas.
Ouais, bah, il faut voir aussi les spin-off de l'époque. Hein. Est-ce que t'as vu le spin-off Aquaman? Parce que. Il faut l'encaisser.
C'est pas un vrai spin-off, ça, c'est chelou en fait.
Ouais,
ils ont pris l'acteur de Green Arrow pour faire Aquaman, genre pourquoi?
Ouais, c'était bizarre.
On tente des choses.
Ouais, bon, bref, qui va regarder ça? Bah, ceux qui regardent les autres séries.
Bah, moi, en vrai, je regarde déjà.
Oui, voilà, pour qu'on se marre un bon coup, et puis voilà, on va dire, les cons, ils sont vraiment cons. Puis en fait, il faudra avoir vu 6 saisons d'Arrow pour comprendre certains trucs. C'est mort.
Putain, la première saison de. Enfin, la première série Bird of Prey qu'ils avaient fait il y a quelques années. Ils s'étaient démerdés quand même pour avoir en narrateur. Ils avaient Mark Hamill. Ils avaient Mark Hamill en narrateur. Et tu pouvais découvrir un jeune Aaron Paul qui n'était pas du tout connu à l'époque et qui ensuite fera Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Et qui jouait encore une fois une petite frappe. Du coup, ça faisait un petit peu. Tu vois, les deux d'affilée, c'est un peu. Ça fait un petit peu univers partagé.
Donc en fait, Breaking Bad, c'est la suite de Birds of Prey.
Ah, c'est possible. J'ai pas tout regardé Breaking Bad parce que je suis pas fan de ce truc, mais sinon.
Par contre, Birds of Prey, t'as tout maté par contre.
Je crois que j'ai regardé deux épisodes. J'ai envoyé un message à Walt, je lui ai fait. Putain, c'est de la merde en fait. Elle a dit Ah oui, c'est de la merde. Tu vas continuer à regarder. J'ai fait. Non, en vrai là c'est chaud.
C'est assez exceptionnel.
Non, mais c'était l'époque où on faisait les. Tu sais, à une époque on faisait toutes les reviews chaque semaine de tous les trucs CW et j'étais là en mode non. Non, en fait, non, peut-être que on va attendre. Et du coup, on attend toujours là.
Enfin bref, voilà. Quelle horreur, les Birds of Prey, elles sont jamais là et maintenant elles sont partout et en fait on regrette.
Mais oui. CW, stop.
Warner aussi, stop, s'il vous plaît. Enfin,
ouais, retirez-leur la licence, quoi.
Ouais.
Mais surtout que Crisis, le futur événement qu'ils vont faire, c'était le meilleur moyen d'arrêter toute la CW et tout passer sur DC Universe.
Faire une Justice League.
Ouais.
Attends, là, il y a Batman qui va arriver. Enfin, le dernier épisode de Batwoman, il y a Batman qui débarque.
Ouais.
Ah, putain.
Mais en fait, c'est ce que j'ai regardé parce que j'ai vu. Après avoir fait la review, je suis allé voir la liste des épisodes et j'ai vu qu'il y en avait 8 et j'ai vu que le dernier épisode, c'était. En gros, c'était Crisis partie 2, tu vois. Et je sais que il y a Kevin Conroy qui va jouer Batman dans Crisis. Du coup, ça me semble plus ou moins évident.
Ouais.
En sachant qu'il a disparu dans Batwoman et que. voilà.
Donc, ça sera pas le Batman de Titans.
Non. Faut être.
Tu veux dire Alfred?
Ouais. Ouais. Qu'il puisse se lever. Hein.
Tu veux dire, tu veux dire ce gros cake de Jorah Mormont.
Putain. Bref.
Titans pas triste vivons, aussi. Hein.
Bon. Vivons on va en revenir avec sombre. Ça. Écoute, moi je trouve ça va, mais on n'est pas là pour faire des reviews.
En vrai, voilà. Blue, je pense qu'on pourrait faire des réactions de Titans, mais en vocal et on l'enregistre. C'est comme vrai ce qu'on c'est... a fait samedi.
C'est vocal. Vrai que c'était pas mal.
Je suis sûr qu'ils adoraient.
C'est un concept. Je suis sûr qu'ils kifferaient.
Faut qu'on en reparle. Bref, on va conclure avec cette fois du côté des films, avec les premières annonces de casting de The Batman après celle de Robert Pattinson. Et donc, le film aurait trouvé son James Gordon avec Jeffrey White, que vous connaissez pour Westworld. Et qui plus est, on a Jonah Hill qui serait en discussion pour incarner un vilain dans le film. Donc, on ne sait pas encore quel vilain, et apparemment, eux non plus ne sauraient pas trop. Ça serait soit le Riddler ou le Pingouin. On est avec Jeffrey Wright dans le rôle, qu'est-ce que vous en pensez? Le premier Gordon noir après Batman Lego.
Bah après moi, le fait qu'il soit noir, je m'en fous un peu, mais c'est surtout un bon acteur, donc ça me dit bien.
Oui, mais c'est un scandale quand même, parce que tu sais.
Évidemment, parce qu'on est aux États-Unis et c'est toujours un scandale.
Parce bon, que vous imaginez, si Black Panther il avait été blanc, ça aurait été un scandale.
Un policier noir. Allô, je veux dire, c'est pas normal. Hein. Ouais. Normalement, les Noirs, ils jouent les méchants, hein. Ils jouent pas les policiers. Hein.
Ouais. C'est pas les Russes, c'est les Vietcong, ça.
Est-ce qu'il va mourir en premier? C'est
ça. Ah non.
C'est que j'ai vu Rambo. Il y a pas longtemps.
Ah. Les méchants, c'est les Mexicains. Mexicains
les Chicanos, c'est vrai que, comme on dit.
C'est vrai que c'est un peu la période des Mexicains.
Non, par contre, est-ce que ça... Est-ce que le fait qu'il soit... Qu'on s'appelle noir, enfin, ça apportera un élément dans le film, ça va voir comment il le traite.
Bah, si vous voulez voir en parler, j'ai fait une très belle lumière du lundi.
C'est toujours la question des. C'est toujours la question des. Enfin, en fait, de base, tu vois, dans le contexte, mettre une minorité dans des hautes fonctions, on va dire, politiques, etc., même si ça dit quelque chose sur le personnage, de base. Mm-mm. Dans un pays comme les États-Unis, si t'es chef de la police de la ville et que t'es noir, ça veut dire que ça sous-entend quand même, il y a une connotation en tout cas, que t'es déterminé, tu t'es battu, etc. Tu vois. C'est vraiment un truc.
Il y a une question de normaliser un peu la chose.
Oui, bien sûr. Après, encore une fois, alors tu vois, ça, je suis quand même assez étonné parce que on remarque souvent qu'il y a du. Enfin, c'est souvent vis-à-vis des noirs que ça se fait. Et je me dis, on est dans un pays, enfin les États-Unis, la population majoritaire, c'est bien sûr les blancs, mais ensuite, il y a 20%, il y a 20% d'hispaniques. Et pourtant, les hispaniques ne sont pas représentés. Tu vois?
Oui. Genre, c'est le moins, je crois.
Oui. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour les hispaniques que pour les noirs aux États-Unis.
Voilà, et tu vois, c'est un truc assez paradoxal, c'est que ces dernières années, s'est développé le fait mettre même des noirs dans des rôles. Des rôles qui étaient à la base, des personnages blancs, etc. Mais ça ne se fait pas pour. La réciproque n'est pas vraie pour tout ce qui est hispanique, en fait. Et c'est un peu particulier. Et ce serait une question à traiter, mais je crois que c'est une question très, très complexe.
Bah, l'immigration, elle n'est pas noire aux États-Unis. Elle
c'est ça. Oui, bien sûr. Mais tu as 10% de noirs et 20% d'hispaniques. Enfin, je suis pas un expert en population.
Mais je veux dire, il y a une communauté qui est américaine, que ça plaise ou non au vieux Texan qui vit dans sa cambrousse, et les hispaniques qui sont américains aussi pour la plupart, mais il y a des immigrés. Les immigrés, ils sont pas noirs, ils sont, enfin en majorité, ils sont hispaniques, quoi.
C'est des mecs. C'est ça. Et t'as l'image de l'hispanique qui vole le travail du bon vieux américain.
Ouais, voilà.
Et c'est compliqué pour eux aujourd'hui, ouais. Et
il y a encore du racisme envers eux, quoi.
C'est horrible. Mais d'ailleurs, pour parler un peu de bonnes séries, Brooklyn Nine-Nine, c'est l'une des seules séries où t'as en personnages principaux deux actrices hispaniques. Et en fait, ils en parlent jamais, quoi. C'est juste comme ça. Et je trouve ça assez bien, quoi. C'est très lent, mais il y a des avancées quand même.
Et puis le truc aussi que j'aime bien. de voir Jeffrey Wright, qui est en plus un bon acteur, dans un rôle comme James Gordon, c'est que ça sort un peu des rôles caricaturaux qu'ont les Noirs ou même les Hispaniques. Si on... ouais. Par exemple, dans Brooklyn Nine-Nine, tu vois, il y a des Hispaniques bon, en flic. Ça rappelle, pour nous, ça rappelle beaucoup René Montoya. Tu vois, mais...
Stéphanie Béatrice, est-ce qu'elle n'aurait pas été parfaite pour Montoya?
Si, si. Mais grave. Et... mais voilà, ils ont des rôles bien précis, tu vois, l'hispanique, souvent, il va faire vraiment le mec à Los Angeles avec son bandeau dans le... avec son...
ouais, le mec dans Suicide Squad, quoi.
Ouais, ouais, ça, il claque le cul de sa femme, voilà, il est habillé comme un gangster, quoi.
Il aime et, le pole dance.
Exactement. Ouais.
Et du coup, moi, je... en plus, c'est vrai que Jeffrey Wright, dans... bon, qu'on connaît tous de Westworld, il a un petit côté où tu... enfin, tu peux voir Gordon en lui, quoi. Ouais. Il a une façon d'être. Ouais. Il a un charisme et tout. Il a une... ça a l'air d'être un mec droit dans son personnage. Mais en tout
en
cas,
même
Westworld,
temps,
il est
un peu torturé. Peu
quoi. Ouais. Tu vois, il a tout. Je pense qu'il a toutes les capacités pour faire un rôle comme ça. Et il faut arrêter de prendre. Enfin, je veux dire, James Gordon n'existe pas dans la vraie vie. Faudrait le rappeler. Et que c'est pas un biopic qu'on fait.
Et sa couleur de peau n'a aucun intérêt dans l'origine du personnage.
Ouais, voilà. Et puis, c'est un film parmi d'autres, parmi un milliard d'autres films.
Et ça fait combien d'années qu'on a des Gordon noirs, blancs dans les films? Genre 50 ans?
Bah ouais, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Tu vois, c'est comme si t'allais que tu regardais une pièce de théâtre, tu vois, que ce soit fait par ton lycée ou je sais pas où. Et bah, c'est ton pote noir qui va jouer le rôle de Robin des Bois, et puis tu vas pas aller lui fracasser le crâne pour lui dire ah non, t'es noir, tu joues pas Robin des Bois, tu fais l'arbre et puis tu fermes ta gueule, quoi. Ou tu fais l'esclave, hein, vas-y, tu fais l'esclave, c'est le seul rôle que tu peux faire. Tu vois, c'est moche.
Et c'est... on rit, mais c'était il y a eu des réactions comme ça pour le film Robin des Bois, là, le dernier. Où c'était
qui, oui.
C'était Frère Jean, je crois, qui était joué par un noir, il me semble.
Frère Tuck. Oui.
Ouais. Ouais, Tuck.
C'est un film assez fun. C'était un film assez fun. C'est super con, mais c'était fun.
Mais je veux dire, le mec, il est noir. Il a trop envie de jouer Romain Desbois, tu vois, ou il a trop envie de jouer Gordon dans ce cas-là, parce qu'il est fan du perso. Bah, il peut pas juste parce qu'il est né comme ça. C'est con, c'est moche. Enfin, c'est dommage, horrible. Quoi. Je veux dire, c'est pas cool, c'est pas très sympa de la part des autres gars. Où
mais
il faut rappeler Gordon ne vous
Gordon...
pas. Quoi.
Surtout le fait que Gordon soit blanc dans le comics, ça change rien.
Ouais, parce que je disais, son origine n'a rien à voir avec sa couleur de peau.
Bah oui.
Non. C'est juste une question.
Le seul intérêt dans Gordon, c'est qu'il se bat contre toute la corruption dans la police et tout. Et ça, t'as beau être blanc, noir, vert, ce que tu veux, ça changera rien au combat qu'il mènera.
Je veux dire, moi je suis certain, je l'affirme aujourd'hui devant vous, que quand je vais le voir à l'écran, il y a beaucoup de chances pour qu'il me fasse plus penser à Gordon que le petit gros à moustache des films de Tim Burton. Je veux dire, ça c'est que... Gordon? Non, je suis désolé, ça c'est pas Gordon. Hein.
Ou
ça,
que
c'est
l'autre, un... la Gotham, j'ai plus son nom.
Oui, Ben McKenzie, ouais.
Oui
voilà,
c'est
encore McKenzie, pire.
Ça c'est un autre problème, ça.
Parce que ça, c'est un sociopathe, quoi. Mais
on s'en fout, il se tapait Morena Baccarin, ça.
Oui, bah, comment a-t-il fait? Enfin, voilà, je veux dire, c'est des mecs, on dirait pas Gordon du tout. Celui de Tim Burton, bah, il est nul à chier.
Il sert à rien.
Ouais, il est ridicule, tu vois. C'est le vieux Gordon de Batman des années 60, quoi. C'est-à-dire, il est là, il est un peu con.
Ouais, c'est ça.
Il est balourd, quoi. Et où aujourd'hui plus personne ne veut ce Gordon là, bah, je peux
alors
dire
Bedens, il était noir, ouais. Je crois.
Alors Bedens, c'est noir, ouais.
Avant d'être recasté en Tommy Lee Jones dans ouais. Celui avec Schumacher, par Schumacher.
Ouais.
Et c'était comment il s'appelle?
C'était Lando.
Ouais, c'était Lando. Comment il s'appelle l'acteur?
Billy Dee Williams.
Oui, voilà.
Mais les fans, ils s'en foutaient à ce moment-là.
Oui. Il n'y avait pas Internet.
Et puis ils n'ont pas, ils s'en sont pas rendus compte, ils ne savaient pas qui était Harvey Dent.
Après, on le voit 3 secondes aussi, hein, faut pas.
Certes. Mais,
mais même mais aujourd'hui, voilà. 3 secondes, je te dis, ça passera pas. Hein.
Ouais, mais aujourd'hui.
Bon, bref. Et donc, Jonah Hill, vous voudriez le voir en qui Pingouin ou Riddler ou... Est-ce que vous êtes chaud?
Le voir en pingouin, je trouve ça aussi un peu genre.
J'aimerais bien le voir en Riddler.
Toi, t'es un peu petit et gros, non, tu peux pas faire le pingouin.
En fait, il est gros en plus, il me semble.
Il y a un truc avec Jonah Hill, c'est que Jonah Hill, c'est un gars bon, qui a fait des comédies, etc. Mais ça fait des années mais que tout le monde le traite comme de la merde. Mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il y a des compilations sur YouTube où tu vois Jonah Hill passer sur des plateaux TV et les mecs
Sur crachent.
Mais sur Canal, mais sur plein d'autres trucs, tu vois. Et les mecs lui crachent à la gueule, mais genre comme c'était la pire des merdes, en mode... il est pas humain, quoi. C'est vraiment très, très chaud. Quand tu le remets en perspective et que tu regardes tous ces moments-là, et ça fait des années que les mecs lui balancent de la merde à la gueule. Et le gars, tu sens qu'en plus, il était pas ultra bien dans sa peau de base, mais alors après ça... Ça a été pire et c'est pas pour rien que le gars s'est retrouvé à jouer dans Maniac sur Netflix, ce que je conseille, qui est une série sur la dépression et sur se remettre de la dépression.
Oui, c'est très bien.
Et c'est pas pour rien qu'il se retrouve là, qu'il a perdu énormément de poids et qu'il essaye de sortir de ce rôle de petit gros marrant dans lequel il s'est enclavé et surtout on l'a enclavé. Et ça serait bien de lui donner un rôle, pas le rôle du débile de service. Sur lesquels on se moque, tu vois. Même si techniquement, en fait, dans les deux cas, ça va, parce que le problème, c'est que maintenant, il est maigre, tu vois. Mais le rôle du pingouin, ça aurait pu aussi lui convenir, mais plus sur le plan psychologique, tu vois. Quand tu vois tout ce qu'il a vécu, en fait. Parce que ça fait des années qu'on se fout de sa gueule, en fait. Enfin, vraiment, c'est chaud. Enfin, tout le monde se fout de sa gueule sur son physique, sur tout en général. Tout le monde le rabaisse. C'est l'histoire du pingouin, en fait.
C'est vrai. Après, même mince, je dirais, il pourrait en faire un tout à fait correct, quoi.
Ouais, bien sûr.
Lui donner de, comment dire, ce que le pingouin mérite.
Ouais, c'est
autrement
ça.
Autrement que les... par Danny DeVito, quoi, une version un peu proche des comics.
Dans les deux cas, ça va, en fait. Parce que s'il joue le pingouin, il joue un personnage qui lui correspond. En fait, c'est pas un rôle de composition qu'il va jouer. Et s'il joue The Riddler, ça pourrait lui permettre de marquer une rupture avec la manière dont les gens le voient. Genre, un mec intelligent, brillant, etc. Donc j'espère que ça va lui arriver, ça serait cool qu'on donne à Jonah Hill cette possibilité.
Est-ce qu'on l'a déjà vu en méchant, Jonah Hill ? J'ai pas vu tous ses films, hein. Honnêtement, je crois pas.
À part peut-être dans une comédie bidon, mais sinon, non.
Ouais.
Il joue toujours le petit gros sympa.
Ouais, ou le mec un peu... Ça, en ce moment, c'est plus le mec un peu...
Ouais, mais là, maintenant, il est déprimé. Mais ce que je veux dire, c'est... Il fait partie un peu de cette génération. Je perds du temps, mais il fera un peu sur cette génération d'acteurs ce type d'acteurs qui joue des ados. Des jeunes pendant très très longtemps. Et qui, après, se retrouvent à faire des rôles où ils savent pas trop. Et souvent, les mecs, tu sens qu'il y a un mal-être. Et ils se mettent à jouer des trucs de dépressif parce que ça correspond. Tu prends, pareil, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Mary-Elizabeth Winstead, mais elle a joué dans Scott Pilgrim avec Michael Cera.
Ouais.
Et ce gars-là, pendant des années, il a joué des rôles d'ado, jeune, en gros, vous voyez la tranche d'âge 7-25 ans grand max, mais non, généralement c'était plus 20-22. Et maintenant, mais le problème c'est qu'à mesure il vieillit. Et maintenant, il joue dans des trucs. La dernière fois, je l'ai vu sur un truc YouTube. Enfin, c'était une série YouTube, un truc de science-fiction, etc. Et il jouait un mec déprimé, en fait. Et cette génération-là, elle a pris cher dans sa gueule et elle n'a pas réussi à amorcer le virage comme elle le voulait.
Et est-ce que vous saviez qu'en fait, il a doublé Green Lantern dans Lego Batman, Jonah Hill?
Ah ouais?
Ah non.
Ouais.
Je ne me rappelais plus de ça. Je l'ai sûrement
fait. On le voit apparaître, quoi. Il y a une lanterne, il apparaît 3 secondes, quoi.
Ouais, je me rappelle même pas, mais c'est marrant.
Bah écoute, il fera peut-être Green Lantern. Peut-être qu'on le verra dans les storyboards de Zack Snyder. John Hill en Green Lantern.
Yes.
Peut-être qu'il va inventer aussi l'arrivée d'Al Jordan dans son film. Ouais. Mais bref, donc on est plutôt...
Chaud.
Plutôt très chaud pour The Batman, pour les deux. Et sur ce, on va conclure ce podcast. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit dans 2 semaines pour le prochain podcast classique. Bye bye.
Ciao.
Salut.